Lizzie présente Le fil rompu de Céline Spireur. Lu par Julie Pouillon. À mes parents. Extrait de la rubrique Art du New York Times, 12 avril 1978. Le réalisme lumineux sur le devant de la scène. Lundi soir, la vente de la maison Sotheby's, consacrée à des pièces d'art impressionnistes et naturalistes, aura tenu ses promesses. Parmi les œuvres attendues, on comptait entre autres un carnet de croquis ayant appartenu à Marie Spartalis Tillman, deux toiles d'Henri Biva et une fresque d'Alfred Munnings. Mais c'est la vente de l'intégralité des tableaux de Mirko Danowski qui aura sans aucun doute le plus contribué à l'effervescence de la soirée. Depuis le battage médiatique autour du dernier best-seller controversé de Brian Bristol à la jaquette ornée d'une reproduction de son œuvre, Danowski, jusqu'alors méconnu, s'est vu propulsé au rang de célébrité. L'incertitude planait sur le sort de ces toiles que beaucoup convoitaient. Danowski suscite autant l'intérêt grâce à la beauté délicate et hyper réaliste de ses peintures, qui rappelle le romantisme typique des courants pré-raphaélites, qu'en raison de son passé dramatique. À cette biographie tragique, qu'il n'évoque jamais, s'ajoute la rareté, puisque sa collection se compose d'uniquement 6 pièces. Il est indéniable que le mystère auréolant Danowski a participé à l'explosion du prix de son œuvre. Sans atteindre la cote des chefs-d'œuvre incontestés, les peintures de Mirko Danowski ont hier largement dépassé les estimations. Au terme d'enchères acharnées, c'est finalement un acheteur anonyme qui, par téléphone, a remporté cette bataille inattendue pour un montant total de 950 500 dollars. Chris McNamara. Kalish, Empire russe, 1912. Ivan marchait en traînant les pieds, le regard fixé sur l'extrémité usée de sa chaussure droite. Le cuir commençait à se décoller et ce constat lui arracha un grognement résigné qui s'évanouit dans la nuit. À cette heure, seule la plainte de ses pas rompait la quiétude de cette agréable soirée. En dépit de l'irritation que lui inspirait le couinement de ses souliers, Ivan savourait sa solitude. Il rechignait à rentrer chez lui et avait volontairement fait un détour à travers la ville. Les ruelles endormies lui paraissaient d'autant plus belles lorsqu'il était seul à les admirer. Débarrassé de ses habitants, du bruit et enveloppé d'obscurité, Kalish rayonnait d'un éclat différent. Empruntant la rue Srodmieshska, Ivan songea à son épouse. Une femme fade et effacée, au caractère aussi plat qu'un interminable champ de blé. Ivan redoutait les mornes considérations qu'ils échangeraient à son retour, et il ferma brièvement les yeux comme pour mieux chasser cette idée. Quelque part au-dessus de sa tête, un oiseau s'envola dans un bruissement d'ailes. Ivan le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse, puis laissa échapper un long soupir, lourd de toute l'insatisfaction d'un homme de 40 ans aux aspirations avortées. Il pensa à son fils, cet adolescent chétif et timoré, tristement conçu à l'image de sa mère, et ralentit encore le pas. À la naissance de son garçon 16 ans plus tôt, Ivan avait contemplé le bébé minuscule et dépendant, convaincu qu'il grandirait pour lui ressembler et inspirer sa fierté. La promesse de sa propre influence l'avait réjoui, et il s'était investi dans l'éducation de son fils, mû par la certitude, rétrospectivement naïve, qu'un enfant se façonne aussi facilement que l'argile qu'il manipulait jour après jour. Au bout du compte, Ivan n'avait jamais eu l'impression de s'être si piteusement trompé. En plus de posséder un corps malingre et un visage d'une finesse féminine affligeante, son garçon avait un caractère diamétralement opposé au sien. Que dire de son attrait pour la peinture, par exemple? Ce loisir futile qui, de l'avis d'Ivan, restait avant tout le domaine de prédilection des paresseux et des fous. Depuis toujours, Ivan abhorrait la sensibilité artistique de son fils et son exaspérante tendance à la rêverie. La fascination manifeste qu'il vouait à des représentations de scènes anodines laissait Ivan à la fois songeur et irrité. Il détestait voir son regard s'illuminer lorsqu'il saisissait ses pinceaux. Il détestait cette passion stérile synonyme d'inaction qui n'aboutissait qu'à une monumentale perte de temps. Pourtant, à d'autres moments, la possibilité que son fils jouisse d'une perception supérieure à la sienne l'effleurait, et Ivan se sentait alors étrangement déprimé. Remarquant qu'il grommelait dans sa barbe, Ivan prit une longue inspiration et essaya, la tête renversée vers le ciel, de se réapproprier le sentiment de plénitude qu'il avait étreint avant qu'il ne laisse son esprit s'égarer. Il s'engagea ensuite sur le vieux pont de pierre surplombant la rivière Prosna. Les clapotements de l'eau en contrebas l'aidèrent à retrouver son calme et il s'arrêta quelques instants, appuyé contre le parapet, gagné par l'agréable fraîcheur de la rivière. Succombant à la mélancolie, Ivan fit défiler les années et les innombrables souvenirs liés à cet antique pont, érigé près d'un demi-siècle avant sa naissance. Il repensa aux allers et retours qu'il faisait enfant chaque samedi avec sa mère, les bras chargés de sacs de provisions achetés au marché de la vieille ville. L'odeur iodée du poisson cru et celle, douceâtre, des fruits mûrs. Il se revit à 13 ans, relevant le défi de traverser le pont en équilibre sur la rambarde. Puis à 15, en train d'embrasser Paulina Bartkoviak, la fille cadette du boulanger, emportée 4 ans plus tard par le typhus. Il songea à ce chiot effrayé qui avait bondi dans la rivière et au jour où, encore à la lisière de la sombre monotonie sur le point d'envahir sa vie, il avait appris qu'il deviendrait père. Ivan se pencha et scruta le reflet noir et lisse du courant. Il inhala une dernière fois l'air saturé de ses regrets, puis se détourna. De l'autre côté du pont, des rires étouffés se mêlèrent au chuintement de l'eau et Ivan n'y prêta pas tout de suite attention. C'est en atteignant l'extrémité de la passerelle qu'il perçut distinctement une série de gloussements, ponctués d'un affreux bruit de succion, et il s'immobilisa. Il fouilla les ténèbres, les sens en alerte, et finit par distinguer, moulés dans l'embrasure d'une porte d'entrée, 2 silhouettes enlacées. Leurs contours se fondaient dans l'ombre projetée par le parapet au-dessus d'eux, et ce n'est qu'au moment où, parvenu à leur hauteur, Ivan leur jeta un coup d'œil sévère et curieux, qu'il réalisa qu'il s'agissait de 2 hommes. La surprise le cloua sur place, et il resta bêtement à les dévisager. Au bout de quelques secondes d'un silence consterné, Ivan pointa un doigt accusateur dans leur direction. « Eh vous, bande de PD !» L'excitation modulait sa voix et ses paroles résonnèrent curieusement à ses oreilles. Les 2 amants se retournèrent brusquement. Sur l'instant, Ivan n'aurait su dire ce qui l'étonna le plus. La perversité déplorable et répugnante de ces sous-hommes ou le fait qu'aucun indice dans leur apparence ne les désigne comme tels. Le plus grand des 2, solidement bâti, avait un visage avenant aux traits réguliers qu'Ivan, en dépit de sa profonde aversion, jugea séduisant. Ce constat attisa sa rage et il s'avança d'un pas. « Espèce de dégénéré! Vous ne pouviez pas trouver meilleure cachette ?» L'inconscience effarante de ces individus le mettait hors de lui. Leur instinct dépravé éclipsait manifestement tout bon sens et Ivan fit un pas de plus, déterminé à en découdre. Sans réfléchir, il poussa le plus petit et lui porta un coup à l'abdomen. L'homme s'affaissa légèrement, visiblement plus étonné qu'endolori, et tandis qu'Ivan se reprochait de n'avoir pas visé plus bas, histoire de lui refroidir ses désirs coupables, l'autre le percuta à la mâchoire. Ivan pivota, déséquilibré par l'impact et cherchant instinctivement à esquiver un 2e coup. Et il eut juste le temps d'enregistrer le mouvement du bras de son assaillant avant de s'effondrer par terre. Le poing s'abattit contre sa gorge avec une telle violence qu'il s'écroula, le souffle coupé. Sa trachée semblait s'être rétractée au point de ne plus laisser passer l'air. Alors Ivan tendit le cou, les yeux exorbités, sa main battant inutilement dans le vide en quête d'une prise. Le visage tourné vers la rivière, Ivan emporta une ultime vision de son pont bien-aimé avant de sombrer dans l'inconscience.